Bonjour et bienvenue, voici le journal de Clara Lecoq-Réal.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Un vaccin expérimental contre Ebola commence à être testé en Ouganda. Il pourrait ensuite être utilisé en RDC voisine, très touchée par le virus en ce moment. Nous irons dans la province du Nord-Kivu dans un instant.
Vous entendrez ensuite pourquoi le plomb est mauvais pour la santé. À Paris, la mairie promet de nettoyer un large périmètre autour de la cathédrale Notre-Dame. Les taux de plomb y sont largement supérieurs à la moyenne. L'agence régionale de santé les a mesurés.
Monaco se dit prête à dépénaliser l'avortement. La mesure sera toutefois limitée aux seules femmes enceintes et non aux médecins. Nous y reviendrons.
Dans ce journal encore, nous irons au Mexique. 3 jours après une fusillade meurtrière à la frontière américaine, le gouvernement demande à Washington d'être plus ferme sur la vente d'armes à feu.
Et puis au Japon, une exposition sur les femmes de réconfort a été annulée ces derniers jours. La pression de l'extrême droite a eu raison de l'artiste. Nous irons à Tokyo. Et l'on commence donc par cette alerte sanitaire en République démocratique du Congo. Un an après le début d'une nouvelle épidémie d'Ebola, le virus n'est toujours pas maîtrisé ni contrôlé. 12 cas suspects ont été transférés vers la ville de Goma ces derniers jours pour être examinés par des médecins appelés équipe de la riposte. Pour endiguer la maladie, ils tentent de prendre en charge les patients le plus tôt possible pour les soigner et surtout pour les empêcher de voyager. Car l'Ouganda voisin, juste à côté de la région concernée du Nord Kivu, l'Ouganda est déjà en alerte. Sur place, patient Ligodi nous raconte que les flux de population sont la première cause de propagation de la maladie. Voici son reportage.
Parking du centre-ville de Beni, 17h, 4 véhicules s'alignent pour le grand départ à Kasindi, la frontière ougandaise. Avant d'embarquer, chaque passager doit se laver les mains, c'est obligatoire. À 30 minutes de marche d'ici, quartier général de la riposte contre Ebola, Dr Gaston Tchapenda, coordonnateur local de la riposte, dirige des équipes de terrain. Il a plusieurs défis, dont les déplacements de population.
Ça pose problème, vous avez été au courant de ce qui s'est passé en Ouganda, ce sont des contacts qui sont partis là-bas. De ce qui s'est passé à Goma, c'est encore une fois des contacts qui sont partis là-bas. Faire comprendre aux ménages qu'un contact doit être fidélisé et on doit le voir chaque jour jusqu'à ce qu'il termine les 21 jours demeure un défi.
L'autre défi pour lui, c'est ce qu'il appelle les décès communautaires, c'est-à-dire les malades qui meurent d'Ebola sans avoir été amenés au centre de santé. Il y a également un problème de qualification du personnel médical local.
C'est-à-dire la carotte, vous formez, n'est-ce pas? Vous donnez le matériel et tout, mais le fouet, c'est-à-dire si un infirmier est récalcitrant, on finit par fermer le centre de santé. Et ça, nous le faisons, oui, absolument, avec de l'autorité administrative de la place.
Pour renforcer la lutte contre Ebola ces derniers jours, des experts venus notamment des villes voisines comme Butembo et Goma ont été déployés.
C'était patient Ligodi, le correspondant de RFI en République démocratique du Congo pour France Culture ce matin. 3 écoles aux abords de la cathédrale Notre-Dame de Paris présentent des taux de plomb anormalement élevés. L'Agence régionale de santé publie son rapport. L'ARS a relevé par endroit 24 000 microgrammes de plomb par mètre carré quand le seuil de précaution est à 1000 microgrammes. En plus du nettoyage par la mairie de Paris, les habitants sont invités à réaliser une plombémie car les risques peuvent être importants, souligne ce matin le docteur Madi de Nantes.
Le plomb, c'est un poison, c'est un toxique puissant qui, en plus, quand il est absorbé, va se stocker dans l'os où il va rester pendant très longtemps. Donc c'est une intoxication qui, en plus, chez les jeunes femmes ou chez les petites filles, va concerner une future génération, puisque quand elles seront enceintes, elles relargueront le plomb dans le sang et une génération qui n'existe pas encore sera intoxiquée par ce plomb. Donc oui, il faut être très vigilant sur le plomb, c'est un toxique puissant. Il doit y avoir une surveillance au moins des enfants et des femmes susceptibles un jour d'être enceintes doivent avoir un taux de plombémie. C'est-à-dire on doit savoir est-ce que il y a eu du plomb dans le sang, plomb qui, dans un deuxième temps, sera stocké dans l'os.
Le docteur de Nantes, interrogé ce matin par Julien Langlais. Au cœur de l'été et en pleine haute saison pour le secteur hôtelier, les femmes de chambre ont décidé de se faire entendre. Celles qui travaillent en tout cas pour un hôtel parisien, l'Ibis Batignolles, l'un des plus grands d'Europe, elles dénoncent leur salaire misérable, disent-elles. La moitié des employés de l'établissement est en grève depuis 3 semaines. Aujourd'hui, mardi, elles vont partager leur caisse de grève, une aide plutôt bienvenue au vu de leur fiche de paye qu'elles avaient reçue la semaine dernière, Hugo Charpentier.
Ça ne leur était jamais arrivé. Une distribution de fiches de salaire en main propre. Ça se passe directement sur le parvis de l'hôtel. Une quinzaine d'employés grévistes sont présentes. Gilets de la CGT par-dessus leurs boubous colorés.
Madame Diarra, Madame Diallo.
Après 15 jours de mobilisation, le salaire ne dépasse pas les 500 euros pour ces femmes d'origine africaine. Employées par un sous-traitant, l'entreprise de nettoyage STN, la responsable des ressources humaines est d'ailleurs présente et elle prévient.
Nous vous demandons aujourd'hui de prendre conscience des effets de ces jours de grève sur votre salaire. À trop vouloir gagner, on finit par tout perdre.
Pour Rachel Keke, une employée, ce discours n'est qu'une tentative d'intimidation.
C'est de la comédie, c'est nous mettre la pression, nous influencer, mais ça ne marchera pas. On ne va pas baisser les bras, on sait que c'est dur, mais il faut qu'on tienne bon.
C'est le cas visiblement, aussitôt la musique repart de plus belle, et les revendications sont sur toutes les bouches. Ces femmes réclament une baisse de la cadence de travail, elles qui nettoient jusqu'à 45 chambres dans une journée, un rythme infernal qui use, explique Sylvie, une des femmes de ménage.
Moi tout le temps quand je rentre à la maison, j'ai des douleurs, la poussière, faire le lit, enlever les draps, enlever les serviettes. Mais je suis abonnée au Doliprane parce qu'il y a des tendinites. Tout ça, c'est un travail physique.
Autre revendication, l'instauration d'une indemnité repas. La direction est d'accord pour 2 euros par jour. Une proposition scandaleuse pour Sylvie.
On est traité comme des esclaves. On est revenu en 1800 parce que 2 euros proposés à ton salarié, c'est inadmissible, quoi.
Devant l'impasse des négociations, toutes ces femmes n'espèrent en fait qu'une seule chose, la fin de la sous-traitance et leur embauche par le groupe Accor, propriétaire des hôtels Ibis.
Il semble payer sa mauvaise gestion de l'affaire Geneviève Leguet, du nom de cette militante d'attaque blessée à Nice pendant une manifestation des Gilets jaunes, manifestation interdite. Le procureur de Nice devrait être muté à Lyon en tant qu'avocat général auprès de la cour d'appel. C'est une rétrogradation demandée par le ministère de la Justice. Jean-Michel Prêtre avait reconnu avoir minimisé les faits pour ne pas contredire le président Emmanuel Macron. Dépénaliser l'avortement, mais sans l'autoriser pour autant. Voici ce que s'apprête à faire la Principauté de Monaco. Désormais, les femmes monégasques pratiquant un avortement avant la fin de la 12e semaine de grossesse, ces femmes ne tomberont plus sous le coup de la loi. Elles devront toutefois pratiquer cette IVG à l'étranger, Ilan Malka.
C'est une législation qui évolue lentement sur le rocher car le sujet est très loin de faire consensus. Il faut savoir qu'il y a encore 10 ans dans cette principauté où le catholicisme est religion d'État, l'avortement était totalement interdit. C'est en 2009 qu'arrive la première évolution dans la loi. Elle autorise dorénavant l'avortement en cas de viol, en cas de grossesse à risque pour la femme enceinte ou en cas de troubles irréversibles du fœtus. Dans tous les autres cas, l'avortement reste puni. C'est donc le cas encore aujourd'hui. Les femmes qui le pratiquent en dehors des 3 exceptions citées risquent une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans. La législation devrait évoluer à nouveau très prochainement. Le texte validé par le gouvernement est une avancée timide. Selon ces dispositions, les femmes ont désormais le droit d'avorter volontairement, sans condition, avant la fin de la 12e semaine de grossesse. Mais, et c'est là toute la particularité, les médecins monégasques n'ont toujours pas le droit de pratiquer l'acte. Ils risquent 5 à 10 ans de prison s'ils le font. Ils peuvent cependant conseiller et orienter leurs patientes vers un confrère à l'étranger. Dans son communiqué officiel, le gouvernement monégasque assume en quelque sorte de faire du « en même temps ». Il indique que ce texte, je cite, « permettra d'apporter une réponse appropriée à la détresse de la femme enceinte, qui ne serait plus condamnée, mais entendue et accompagnée », ceci tout en préservant des valeurs aussi fondamentales que le droit à la vie de l'enfant à naître. Fin de citation. Le Conseil national, qui est le Parlement de Monaco, devrait maintenant voter définitivement le projet de loi dans les prochains mois.
Il est 8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Aux États-Unis maintenant, Donald Trump a pour la première fois hier condamné le suprémacisme blanc.
Le président américain prenait la parole après les 2 fusillades qui ont fait 31 morts ce week-end dans l'Ohio et dans le Texas. Il se rendra d'ailleurs demain à El Paso. Le ministre des Affaires étrangères mexicain, lui, s'est déjà rendu à El Paso au Texas. C'était hier soir, là où la fusillade a ciblé et tué 7 ressortissants du Mexique. Le ministre a confirmé qu'une enquête était ouverte pour terrorisme, Emmanuel Stills.
Le Mexique entreprend sa propre quête de justice après la tuerie d'El Paso, un crime à caractère raciste qui a ôté la vie à plusieurs de ses ressortissants. Depuis la ville frontalière américaine, lundi, le ministre des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a évoqué les actions judiciaires menées au Mexique.
C'est un acte de terrorisme. C'est pourquoi nos autorités judiciaires ont ouvert une enquête et cela pourrait déboucher sur une demande d'extradition. Si le procureur le juge opportun. Nous coïncidons avec les déclarations qui invitent à considérer le racisme et le suprémacisme blanc comme de sérieux problèmes aux États-Unis.
Le chef de la diplomatie mexicaine a également confirmé une deuxième enquête ouverte par le Mexique et portant sur la vente de l'arme utilisée lors du massacre. Dans le même ordre d'idées, le président Andrés Manuel López Obrador a critiqué l'immobilisme des deux grands partis américains sur ce thème.
Ils doivent réfléchir et parvenir à une décision pour contrôler la vente d'armes qui ne répond pas à des critères stricts. Cela a des conséquences graves pour les citoyens américains et cela nous concerne nous aussi.
Depuis quelque temps, le gouvernement de López Obrador tente de démontrer que les politiques américaines en matière de vente d'armes ont un impact direct sur la violence au Mexique et le trafic d'armes en provenance des États-Unis est devenu un thème incontournable du dialogue bilatéral.
Alors, donc hier, le président américain, lui, n'a pas évoqué le contrôle des armes à feu aux États-Unis. Donald Trump a préféré proposer de renforcer le contrôle d'Internet, de réformer la législation sur les maladies mentales, ou bien d'appliquer encore plus largement la peine de mort en réponse aux tueries de masse dans le pays. Les tirs de missiles depuis la Corée du Nord n'y changent rien, pas même les deux derniers projectiles lancés cette nuit. Les traditionnels exercices militaires dans la région entre les États-Unis et la Corée du Sud ont bel et bien débuté. Malgré donc les mises en garde récentes de Pyongyang. Nouvelles échauffourées, grève générale, transport en commun paralysé, le bras de fer continue à Hong Kong entre le gouvernement pro-Pékin et les manifestants pro-démocratie. Cela dure depuis deux mois et les Hongkongais ont eu le temps de s'organiser. Certains, en tout cas, ont développé des techniques pour rester près des forces de l'ordre et pour ralentir leur avancée. Présentation de ce système D avec notre envoyé spécial sur place, Zifan Liu.
À chaque offensive policière, les gestes sont toujours les mêmes et répétés avec une rapidité déroutante. Dès l'impact de la grenade lacrymogène, plusieurs manifestants se jettent dessus pendant que le gros de la foule bat en retraite. L'un recouvre la grenade avec un plot de signalisation, l'autre verse de l'eau pour atténuer la fumée. Parfois, ils se servent d'une bassine en métal, d'un couvercle de casserole, tout est bon pour limiter les dégâts. Ces manifestants sont ceux qui tiennent la ligne de front, casque sur la tête, masque à gaz sur le visage et pas un seul centimètre de peau à l'air libre. Certains sont équipés de lasers, rouge, vert, bleu, ils sont de toutes les couleurs et ont plusieurs utilités. Ils sont pointés sur des passants un peu trop curieux et qui seraient tentés de filmer les scènes d'affrontement depuis les nombreuses passerelles de la ville. Ils peuvent également avertir les résidents d'éventuels tirs de gaz lacrymogène, mais surtout ils sont dirigés vers les policiers pour ne pas être pris en photo par ces derniers et pour éviter la reconnaissance faciale. En face, les policiers usent de lampes torches ultra puissantes, donnant un spectacle son et lumière unique en son genre, lors d'affrontements toujours plus violents, week-end après week-end.
Une grève générale à Hong Kong. Nous poursuivons la discussion autour de cette mobilisation avec Benoît Bouscarel et les invités des matins de France Culture. Ce sera après ce journal. Car avant cela, partons au Japon où une exposition a été annulée lors de la triennale d'art contemporain d'Aichi qui se tient en ce moment. Elle présentait notamment une statue, une œuvre d'art d'une sud-coréenne sur le thème controversé des esclaves sexuels de l'armée impériale japonaise. Des jeunes filles asiatiques forcées de se prostituer lors de la Seconde Guerre mondiale. Les organisateurs de l'exposition ont reçu de nombreuses menaces, Frédéric Charles.
Les pressions de l'extrême droite japonaise auront été trop fortes. Un de ces fax disait « Si vous ne retirez pas une statue représentant une femme de réconfort, nous irons au musée avec un bidon d'essence ». Le Japon pensait que ce contentieux historique des femmes de réconfort, un euphémisme désignant quelques 200 000 Asiatiques en majorité coréenne, contraintes de se prostituer pour l'armée impériale japonaise dans les années 30 et 40, que ce contentieux avait été réglé en 2015 par un accord qui se voulait définitif et irréversible entre la présidente sud-coréenne Madame Park et le premier ministre japonais Shinzo Abe. Le Japon avait versé près de 9 millions d'euros à une fondation afin de restituer l'honneur et de penser les blessures psychologiques des victimes. Entre-temps, la présidente sud-coréenne a été destituée et son successeur a dénoncé cet accord. Car la présidente Park avait accepté la version japonaise de l'enrôlement forcé des victimes, version qui éludait la responsabilité légale de l'armée japonaise dans cet esclavage sexuel. En affirmant que son armée n'a pas été directement impliquée dans l'enrôlement d'esclaves sexuels, le Japon refuse de tourner cette triste page de son histoire.
C'était Frédéric Charles à Tokyo pour France Culture. La météo en France métropolitaine ce mardi à présent. Et c'est le retour de la pluie sur une partie du pays. Des Hauts-de-France jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes où des orages pourraient éclater dans l'après-midi. 6 départements du centre-est sont en vigilance orange. Plus au sud, en revanche, le soleil brillera encore sur un temps sec. Il fait ce matin 18 degrés à Brest, 22 à Paris et La Rochelle, 25 degrés à Strasbourg et à Lyon, 29 degrés à Marseille et sur la Corse ce matin.